Design Lab, à la rencontre des designers. Des échanges, des univers et des découvertes autour du design rennais. Design Lab, à la rencontre des designers, est un podcast créé par les étudiants du DSA Design Produit du Lab Rennes. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Gwenaël Vinciane-Vinouz et Frédéric Laroche de l'atelier A4.
On est designer artisan. On a fait tous les deux les Beaux-Arts de Rennes. Moi, juste le DNCEP et j'ai fait le DNAP à Reims. Et ça fait depuis 2006 qu'on a créé l'atelier A4.
Ok, donc tous les deux sur la conception et la fabrication.
Exactement. On a une pratique complémentaire. Gwen est plus sur l'approche, le dessin, la conception. Et puis moi, après, je la relais sur la conception et la réalisation. Mais Gwen travaille aussi en réalisation.
Pourquoi le nom d'atelier A4?
On était quatre au départ. On était avec Thomas Guyot, qui est architecte des PLG, et Joanne Pro, qui était de la même formation, enfin de la même année de formation que Fred, qui est parti dans le sud-ouest. Donc un peu plus compliqué pour travailler ensemble. Et ça fait depuis 2010 qu'on n'est plus que deux. Donc c'est atelier à quatre mains.
Ouais, on a conservé l'appellation parce qu'il y avait, on avait une actualité. On a aussi toujours considéré que l'atelier n'était pas forcément que nous deux. On pouvait aussi, sur des temps courts ou des temps plus longs, accueillir un plasticien, d'autres intervenants. Ça a toujours été ouvert, comme vraiment on a voulu garder la notion d'atelier, quoi.
Bah justement, on a vu que, par exemple, vous aviez travaillé avec d'autres designers,
oui.
Style Pierre-Marie Bagot.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer la démarche et qu'est-ce que ça vous a apporté?
Par exemple, Pierre-Marie Bagot, c'est un ancien stagiaire à nous. Donc souvent, une fois qu'on a eu ce partage-là lors d'un stage, nous, on a un atelier assez ouvert et ça permet à certains jeunes qui n'ont pas forcément d'atelier quand ils débutent de venir un petit peu faire leur pratique dans notre espace. Donc ça, par exemple, c'est vraiment juste, c'est du réseau, en gros. C'est le stage permet de nous avoir dans leur carnet d'adresses et puis de travailler ensemble sur différentes choses.
Oui, alors on a eu beaucoup de stagiaires, on n'a pas continué avec tous des collaborations, mais en règle générale, quand on voit qu'ils sont autonomes, qu'ils sont motivés, qu'ils sont habités par leur démarche de fabrication ou de développement, on ouvre toujours la porte, quoi, si besoin, à l'utilisation de certaines machines, à l'utilisation d'un peu de place, à une collaboration aussi événementielle, c'est-à-dire que parfois il nous arrive de faire des salons, des expos, donc on peut aussi demander un coup de main avec à des amis graphistes ou sérigraphes, ou on peut demander un coup de main sur une scéno, sur de l'ajout, et puis aussi on peut proposer à ces stagiaires, à ces jeunes créateurs, à d'autres personnes qui ont une démarche créative, d'exposer en conjointement, profiter de leur présence aussi pour les mettre en présentation, quoi. Il y a plusieurs manières de redonner un peu de sens à ce que peut être un stage, c'est assez court souvent. Donc c'est vraiment pas mal quand on peut avoir une relation un peu plus continue avec les personnes qu'on sensibilise à notre univers, on va dire.
Justement, est-ce que vous pourriez nous parler de votre univers et de votre pratique?
Tout va dépendre en fait si c'est des commandes ou si c'est du développement en petite série comme on peut faire. Après, nous on aime bien questionner aussi bien les espaces que tout ce qui est un peu plus iconique. Des petites lampes qu'on fait, l'arc-en-ciel, c'est vraiment par rapport à un clin d'œil en fait à ce que tout le monde connaît et tout le monde peut trouver ça merveilleux. Donc c'est souvent... l'objet doit permettre de faire questionner la personne en fait qui va le regarder. Donc les arches comme l'arc-en-ciel, ça interpelle.
On appréhende aussi bien le dessin directement, ou alors parfois à l'envers, on travaille à partir d'un matériau qu'on modèle, qu'on contraint, qu'on expérimente, de manière à aboutir à de la formalité. Donc c'est des manières qui sont des processus de travail qui sont peut-être parfois un peu différents. En fonction de la demande, des délais aussi, la notion de temps, elle a vachement d'importance.
Justement, vous parlez de matériaux, est-ce que vous avez un matériau de prédilection?
Pas vraiment, on a la base de trois matériaux classiques, on a les métaux, on a le bois et on a les matières plastiques. Mais après, on est ouvert aussi aux nouveaux matériaux, ça va dépendre en fait de la commande souvent.
Et dans ces cas-là, ça vous arrive de sous-traiter?
Oui, on l'a très peu fait. Au départ, on maîtrisait vraiment, on avait un petit peu du mal à aller démarcher ou suggérer à des entreprises de travailler avec nous. Alors je ne dis pas que ça a été impossible, mais parfois assez difficile, qu'on avait peur de, d'une part de leur faire perdre un petit peu leur temps, de deux, il y avait l'aspect coûteux aussi, qu'un travail avec une entreprise, un réel professionnel, on va dire, peut, quand on fait de la recherche, ça peut être un peu long, fastidieux, coûteux.
Et tout se fait ici
ou... Oui.
Okay. Est-ce que c'est votre résidence?
Non.
Non, c'est juste un atelier qui est mis à notre disposition par territoire. On a eu la chance de pouvoir faire une demande. À l'époque, en 2006, quand on sortait des Beaux-Arts, voilà, on pouvait faire une demande à la ville pour un atelier, qui pouvait être logement justement ou pas, ou atelier simple. Et donc nous, on est passé un petit peu au travers des mailles. On n'a pas vraiment, on n'est pas vraiment rentré dans le circuit des ateliers traditionnels. On a eu la chance de pouvoir rencontrer une personne à territoire qui pouvait à l'époque mettre des lieux qui étaient frappés d'alignement ou en mutation à disposition d'artistes. Et donc c'est un lieu dans lequel on travaille depuis une dizaine d'années maintenant, mais qui sert principalement d'atelier.
Quelle place a l'écologie dans votre design ?
On a été baigné lors de notre formation dans une notion qui était assez importante, qui était l'éco-conception. Effectivement, on commençait déjà dans les années 2000, heureusement, à avoir des préoccupations environnementales, pas simplement réaliser, faire pour faire, vouloir vendre pour vendre. Il faut être conscient de ça. Après, nous, c'est pas le faire-valoir de l'atelier. On a ces préoccupations-là qu'on prend comme des contraintes. Quand le client y est sensible, quand le commanditaire y est sensible, on a déjà eu l'occasion parfois de pouvoir recycler, travailler à base de chutes, rebuts industriels, dans une démarche justement de revalorisation, mais une démarche d'éco-conception, je pense qu'elle s'applique à partir d'un moment où on doit faire une série moyenne, grande, mesurer un petit peu l'impact de nos choses. Et nous, on réalise des objets qui sont pas forcément tout le temps éco-conçus. Hein. Malheureusement, on a parfois besoin d'utiliser des produits qui peuvent ne pas avoir un super bel impact, mais ils sont mesurés. On n'utilise pas énormément de quantité de résine, on n'utilise pas énormément quand on utilise de la résine, ou énormément de quantité d'un matériau qui est pas forcément recyclable.
Après, notre pratique aussi a évolué avec le temps. C'est, au départ, on travaillait beaucoup tout ce qui est particules de bois, on le fait de moins en moins. On essayait plus de travailler des CP. Même au niveau des finitions, on se tourne de plus en plus vers des choses un peu plus naturelles, on va dire, que du polyuréthane à gogo, quoi. Donc, notre pratique évolue en même temps que le temps, mais rien qu'en fait notre travail en soi, c'est on fait du mobilier qui va durer, c'est pas des choses qu'on va devoir jeter d'ici 2 ans, c'est cette pratique-là de dessiner et de fabriquer a quand même une tendance à être respectueuse.
Mais on a commencé, on était étudiants, on bossait, on taffait, se payer un panneau ou ne serait-ce qu'une feuille de plastique ou un outil, c'était pas se saigner, mais il fallait investir. Donc on a aussi respecté la démarche de création de ne pas faire énormément de chutes. On a toujours été des petits oiseaux à essayer de glaner à droite à gauche du matériau qu'on pouvait justement essayer de revaloriser. On parlait avec Maëlle tout à l'heure qui travaille justement, qui est en stage actuellement avec nous, qui travaille sur des matériaux biosourcés, qui essaye de faire un peu de recyclage. On évoquait avec nous au départ, on avait établi un petit partenariat avec des enseignistes par exemple. Toutes les chutes de lettres qui étaient destinées aux enseignes, toutes les macules, toutes les dépouilles en fait... De plastique, même si eux le recyclaient, ils nous laissaient la possibilité d'aller fouiner dans les bennes pour pouvoir recalpiner un petit 10 cm sur 10 cm, et nous ça nous servait de matière première pour régénérer du... On mettait jamais vraiment ça en avant, mais c'était une manière économique pour nous de se fournir en matière, et une sorte de contrainte aussi, on devait réfléchir avec ce qu'on avait sous la main et ce qu'on pouvait sortir avec ça, mais dans l'idée de sortir simplement un prototype, une pièce unique, pas forcément en sortir des gammes à outrance, quoi.
Et après, c'est aussi tout ce qui est gestion de déchets. Quand on a un atelier de fabrication, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos chutes, comment on pense, en fait, tout ce qui est calpinage aussi. C'est pas justement d'acheter trop pour avoir du rebut.
On n'a jamais fait de cessation de dessin. On a toujours gardé nos dessins pour nous. Et je pense que si on s'orientait vers un objet qui avait destination à être tiré en grande série, on s'efforcerait de le faire... plutôt autour des 100% recyclables. Peut-être qu'il aurait un impact sur sa fabrication, mais notre contrainte et notre créneau voudraient qu'on puisse au moins pouvoir le recycler à la fin de sa vie à 100%. Quoi.
Il y a aussi l'idée de contrainte économique qui vous pousse à rationaliser votre production et donc les matériaux que vous utilisez.
Bah, au départ, c'est sûr, on aurait peut-être eu du mal à faire un luth de 7 kg en laiton. Maintenant, on arrive à travailler avec des budgets qui sont plus cohérents face à une demande qui va être plus, plus généreuse parfois sur certains projets par rapport à certains budgets. Mais on le dit encore aux gens qu'on rencontre, on peut faire parfois des très beaux projets avec des cagettes. Tout dépend du moyen, des moyens, mais nous, en tout cas, on ne refuse rien. À partir du moment où l'univers colle, le programme colle, la discussion avec la personne est intéressante ou épanouissante, les matériaux, on les traite d'où ils viennent, quoi, peu importe.
Vous avez parlé un peu des clients rapidement.
Oui.
Est-ce que vous avez une clientèle très, très définie ou est-ce que c'est plusieurs groupes de personnes assez différents qui viennent à vous ?
C'est assez large. On touche quand même une clientèle aisée, c'est-à-dire ce qu'il y a, pour la majorité du temps. Mais il peut y avoir sur certains objets vraiment une clientèle qui n'a pas forcément des moyens.
Ça, on ne le sait jamais vraiment. Notre clientèle est issue généralement du bouche à oreille, issue des peu de salons qu'on peut faire. On fait 2-3 salons à l'année pour présenter nos travaux quand on en a, parce qu'on a un petit peu de mal à avoir des pièces disponibles. Souvent, ça, une fois que c'est terminé, ça part dans l'environnement où elles doivent aller. Donc on a un petit peu de représentation comme ça où on rencontre des gens et le feeling passe bien sur l'idée de la conception pièce unique ou de recherche comme ça sur des principes. Et donc voilà, ça peut être vraiment du professionnel au particulier qui a une demande bien spécifique, qui veut sortir des sentiers battus ou qui a un projet un peu mouton à cinq pattes, quoi, qui peut avoir des difficultés, mais vraiment une envie de faire réaliser quelque chose. Donc on est là aussi pour conjuguer les possibles.
Est-ce que vous pouvez nous parler d'un projet qui vous a plu et qui relate qui vous êtes et définir un peu votre design ?
Là, on est sorti d'une petite aventure avec l'association Tout à Tout, qui est une association qui aide des jeunes en réinsertion et qui leur propose en fait par le biais d'activités créatives donc de travailler avec des professionnels. Nous on a travaillé pour un fait main, ça s'appelle, et à chaque fois ils ont un commanditaire qui a un besoin d'objets, de mobilier, de sculptures, et ils proposent aux jeunes de concevoir et fabriquer avec des artisans. Et donc là on a travaillé depuis le mois d'avril avec un petit groupe de Tout à Tout et un groupe d'élèves des Beaux-Arts sur le réaménagement d'un hall de l'école Ascoria. Et donc on a fait une semaine et demie de workshop et puis après on est passé au stade de fabrication. Et donc on a fait aussi bien du mobilier que de la fresque, qu'un travail de signalétique, une rencontre avec une conceptrice de jardin. Donc tout ça ça permet en fait de partager, d'avoir quelque chose d'ultra ouvert en fait au niveau de la production. Et puis ça a du sens de travailler comme ça.
Et ce qui était pour nous une première, et je pense que c'est en cela que ça nous a plu et ça nous a marqué, on était un petit peu en retrait par rapport au pouvoir créatif des participants. On leur laissait plutôt carte blanche sur la partie conception. Nous, on était là juste pour envisager les possibles, leur dire ouais, éventuellement, ça c'est réalisable dans les contraintes, le temps, les coûts. Donc à chaque fois, on validait un petit peu, à chaque fois, on mettait un petit validé, ça, ce que tu as proposé, et vraiment unipersonnellement, à chaque fois, chaque personne mettait son grain de sable dans la réponse au projet. L'avantage aussi, peut-être, des choses, c'est que ça a sorti des jeunes. Il y en a quelques-uns qui étaient donc en parcours créa, d'autres un peu moins, ça les a sortis de l'instantanéité, ils ont pour beaucoup pu comprendre que fabriquer prenait du temps. C'était une aventure d'un chantier de 6 mois à peu près, bon, dû au Covid et dû à une période de vacances, un petit chantier élastique on va dire, mais non, c'était super intéressant.
Donc l'aspect social vous intéresse plutôt pas mal, j'ai l'impression.
Oui, alors social dans le sens toujours pareil, établir un collectif, travailler à plusieurs, conjuguer les points de vue, c'est important, c'est très bien. Faire des choses dans son coin, c'est bien, mais travailler pour des gens, je pense que c'est l'essence même d'un métier créatif, c'est d'avoir de la résonance, quoi, de l'écho, que ça puisse faire parler, servir à d'autres.
Mais oui, l'ouverture, en fait, enfin, le design produit a beaucoup évolué depuis que nous on est sorti, en fait, des diplômes, il y a du design de service, il y a plein de choses, de plein de nouveaux potentiels, en fait, par rapport à cette base de métier du design. Et c'est vrai que s'ancrer, en fait, dans notre société, c'est quelque chose de super important, puisque le designer produit, en soi, est censé bosser pour les gens.
Donc, le design, pour vous, est synonyme de service rendu et de partage.
C'est un bon résumé, je trouve.
Ouais, pourquoi pas. Ouais, si, mais c'est une piste. Ça peut répondre justement à ces notions. Ouais. Moi, je suis pas théoricien. j'ai fait des études sup, mais j'ai eu une affinité directe avec plus l'aspect culturel des choses, les portées, les constructions, les fabrications, les finitions, les transformations. Après, voilà, l'aspect théorique de ce que peut représenter le design, moi, j'ai pas du tout
le
maîtrise.
En fait, on n'a pas trop le temps de prendre du recul par rapport à ce qu'on fait. C'est des aventures qui nous arrivent au quotidien. Et puis, c'est vrai, il faudrait qu'on se pose pendant trois mois pour savoir ce qu'est notre métier aujourd'hui. Quoi.
C'est vrai que c'est un métier en perpétuelle évolution. Mmh.
Et multipiste.
Mais c'est vrai depuis qu'on a commencé nos études en 2000, et l'évolution de la société fait aussi que le design produit industriel n'a plus forcément raison d'être. Donc comment on fait évoluer ces métiers et comment des créateurs comme nous peuvent évoluer malgré tout dans nos sociétés, c'est forcément une question importante.
Et vous voyez des différences marquantes entre quand vous avez commencé et aujourd'hui? Enfin, par rapport à votre quotidien
au niveau de la sensibilité des gens, je pense que de plus en plus de personnes sont attachées au fait d'acheter local, de travailler avec des artisans qui sont pas à 600 km, que ce soit fait aussi par les gens. Il y a vraiment une sensibilité qui est grandissante par rapport à ça sur le public privé. Sur les professionnels, je sais pas trop. Mais oui, il y a une sensibilité grandissante pour ça. Et puis, je pense que par rapport à nos études, même ça a évolué. Justement, on soit des stagiaires depuis 10-15 ans, on voit bien que le questionnement par rapport à l'écologie et à la responsabilité du créateur, c'est la question prépondérante. Enfin, on n'a plus le choix, on est obligé de passer par là, quoi. Ce qui n'était pas vraiment notre cas quand on a fait nos études, il faut dire ce qu'il y a.
Après, c'est comme vous disiez, c'est quelque chose venant de la personne elle-même.
C'est ça.
Ouais.
Mais aujourd'hui, par exemple, quand vous passez un diplôme, on est obligé de vous poser cette question-là, écologiquement, comment vous vous positionnez, quoi.
Avez-vous des conseils à donner à de jeunes designers avant qu'ils se lancent? Vu qu'on est...
Alors, se lancer.
Se lancer.
Ouais, il y a divers manières de se lancer. Risque mesuré ou risque...
Nous, on a commencé directement après le diplôme parce qu'on se disait qu'on n'avait rien à perdre à ce moment-là. Après, il y a des gens qui ont besoin aussi de d'abord avoir une pratique avec des professionnels pour se rassurer avant de se lancer. Mais c'est vrai que nous, on était quatre, on était dans une dynamique de groupe où on avait envie de faire, donc on y a été. Mais c'est une question aussi de caractère, quoi. Et puis, enfin, voilà, nous, c'était vraiment une dynamique où on était plusieurs à se lancer tous en même temps. Il ne faut pas avoir peur. Et puis, c'est ce qu'on dit à chaque fois, hein, la curiosité, la générosité dans notre métier, c'est la base, quoi. Donc, il ne faut pas avoir peur de donner. Et puis, il ne faut pas avoir peur de perdre son temps. Il faut être super curieux.
C'est aussi encore une question de personnalité. C'est une question d'appétence face au domaine professionnel. Nous, on n'a pas fait d'investissement. Ça n'a pas été rentable tout le temps. Il y a des moments où il a fallu qu'on prenne aussi des routes de secours professionnels. On a dû trouver des métiers à droite à gauche pour combler un peu, remplir les fins de mois, parce que quand on met du temps, quand on n'est pas forcément... On ne peut pas être bon en tout, hein, malgré la formation qu'on découvre. L'aspect professionnel aussi, enfin je veux dire, l'établissement professionnel, il est compliqué, parce qu'on peut sortir d'une école de créa, on ne sait pas forcément faire un devis, je dirais une facture, gérer une entreprise, tout ça, la gestion, c'est aussi un apprentissage. Se mettre en route, comprendre un petit peu les tenants, les aboutissants. Donc, faut mesurer. Moi, ce que je vous donnerais comme conseil, c'est prendre du recul à la fin de vos diplômes, juste après faire un petit peu le bilan sur ce que vous avez abordé, ce que vous voudriez aborder, ce qui n'a pas été fait. Je pense au voyage, par exemple, c'est extrêmement formateur et ça ouvre un peu des voies sur ce qui n'a pas forcément été envisagé lors de vos formations. Voir où vous voudriez vous établir aussi, comment travailler, quelle est la notion travail dans le pays ou le secteur géographique où vous atterrissez. Et puis...
Une chose importante, c'est aussi le réseau. Là, vous êtes à l'école, vous êtes au début de la création de votre réseau, et c'est vrai que les voyages ou juste le fait de... Enfin, la diversification du réseau peut vraiment permettre de stabiliser un travail. Enfin, nous, c'est principalement par le réseau, en fait, qu'on travaille. Et ça, ça se construit au fur et à mesure, donc c'est la rencontre des gens,
C'est vraiment savoir prendre du recul. Soit tout reste à faire, tout est à défricher et vous arrivez bien en tête sur quelque chose, soit vous vous imprégnez de l'existant.
Vous avez des projets ou des designers en tête à mettre en avant ? Peut-être qu'on ne connaîtrait pas trop.
Des références ?
Plein ?
Ah ouais ?
Plein, mais... Oh non, on n'est sûrement pas à jour. Après, il y a des trucs qui nous sont restés comme ça.
Ce qui me vient toujours en tête, c'est Max Land avec son coulage dans le sable. J'ai toujours trouvé ça magique.
D'étain.
Le métal.
Ouais. Ouais.
C'était de l'étain.
Ouais. Et j'avoue que le travail de Lucivio, qui ressort depuis 4-5 ans, je trouve génial. Et puis en plus, son atelier ici maintenant, enfin, je trouve que c'est un travail assez pertinent. Là, pour les gens moi, qui me reviennent en tête très rapidement, c'est ouais, Max Land et puis en ce moment Lucivio. Et après, il y en a plein. Hein, il y en a beaucoup, parce que justement, moi j'ai eu la chance d'être prof et c'est vrai que on est obligé de se nourrir en fait, de tout ce qui se passe actuellement. Donc il y a énormément de choses qui sont développées dans tous les sens en ce moment et c'est dur de retenir que quelques noms. Quoi. Et Frédéric.
Moi j'adore Richard Serra dans l'architecture, dans les volumes, dans la sculpture. Tu parlais tout à l'heure, c'est un travail que je trouve hyper puissant. En ce moment, je lis un livre sur Pierre Garitch. Sur plutôt du mobilier années 50, autour du luminaire et du fauteuil. Bon voilà, c'est des choses qui restent quand même intimement liées avec la création, mais qui peut être détournées en artisanat. Mmh. Voilà, une chose.
Ouais, enfin après le XXe siècle a quand même sorti des icônes du design qui vont jamais disparaître. Quoi. Je pense qu'aujourd'hui c'est plus des process de fabrication qui sont intéressants et qu'au niveau volume ou objet, on aura toujours en tête. Des designers du XXe siècle.
Merci.